Il est 8h.
Côté du stade, quinzaine d'individus habillés en noir.
Il se barre.
Ça part à droite. Voilà, c'est bon, ça se barre dans les jardins.
Stop
pour les collègues en bas.
Des policiers dans un avion qui observent depuis le ciel des mouvements suspects. C'est la nouvelle technique des forces de l'ordre pour tenter de contrer la violence des bandes. Nous embarquons à bord de cet avion dès le début du journal. Un ministre français interdit de déplacement dans une zone LGBT en Pologne. Europe 1 est à ses côtés. Et puis, c'est un monument du patrimoine français qui va faire peau neuve. La tapisserie de Bayeux va être restaurée. Ça va demander beaucoup de temps et de précautions. À 8h15, l'invité politique de la matinale avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sur le projet de réforme de la justice qu'il porte et bien sûr les sujets brûlants d'actualité comme la violence des bandes. Rendez-vous à 8h15.
Il est 8h01. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec vous Rémi Bostaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Quand les interventions policières au sol ne suffisent plus, la police prend les airs face à la violence des bandes qui a encore fait 2 blessés graves hier soir dans le Val-de-Marne. Les policiers dégainent une nouvelle arme, l'observation aérienne. Et vous avez pu monter dans leur avion à leur côté. Justin Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc survolé la région parisienne avec ces policiers spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils voient depuis le ciel et comment peuvent-ils agir ?
Eh bien, à bord de ce petit avion de 4 places, on a survolé tous les quartiers sensibles de l'Essonne. Étampes, Évry, Grigny, Corbeil-Essonne, Épinay-sous-Sénart. Et ce jour-là, il y a eu le signalement d'un début de rixe près d'un lycée de Brétigny-sur-Orge. Là, à 300 mètres d'altitude, l'avion vire sur sa droite, en dessous de nous, on voit très vite des groupes de jeunes courir dans plusieurs directions. Depuis l'avion, les policiers guident les équipes au sol.
David, ça court, il y a du monde en bas, ça court. Côté du stade, quinzaine d'individus habillés en noir. On a des équipages au sol là, tout au bout, il y a les individus.
Il se barre.
Ça part à droite. Voilà, c'est bon, ça se barre dans les jardins. Stop pour les collègues en bas. Stop, c'est bon, c'est ce groupe là.
C'est vraiment le jeu du chat et de la souris là.
Oui, mais l'avion donne clairement un coup d'avance sur les bandes au sol. Une fois au sol d'ailleurs, Patrick, l'un des deux agents, m'a expliqué que leur action a permis d'éviter les répliques.
Manifestement à Brétigny, ça s'est bien fini puisqu'il n'y a pas de blessés. Il y a eu des contrôles, des interpellations. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Vous avez des unités qui vont chercher à prévenir ce genre de fait-là. Nous, c'est vraiment sur l'instant, il faut vraiment qu'on intervienne.
Alors, on entend ce policier parler du travail de prévention. Ça consiste en quoi, Justin ?
Alors, je suis retourné à Boussy-Saint-Antoine, là où l'un des adolescents est mort. La priorité, c'est vraiment le renseignement, la remontée de ce qu'on appelle des signaux faibles. La police nationale vient de mettre en place un groupement de partenariat opérationnel et j'ai pu assister à la toute première réunion depuis le drame avec les maires, les polices municipales, les directeurs et directrices des collèges et lycées dits sensibles, les agents du renseignement territorial et aussi les chauffeurs de bus qui voient et entendent beaucoup de choses. Nous a raconté le commissaire Laurent Boisset, c'est le référent bande du secteur.
Il y a des efforts considérables qui sont mis en place par ces transporteurs pour former leurs conducteurs à la détection des signaux faibles et donc à la remontée instantanée d'informations de manière à ce que nous puissions déjouer les affrontements.
Alors tous ces acteurs locaux sont désormais reliés dans une conversation sur une messagerie cryptée. C'était nécessaire selon le maire de Boussy-Saint-Antoine, Romain Collas, mais pour lui, il faut aussi faire oublier ces vieilles rancœurs entre quartiers.
On a un énorme boulot éducatif à conduire. Avec les maires des villes voisines, nous allons notamment travailler sur les enfants d'élémentaire, ceux que nous avons dans nos centres de loisirs, pour faire en sorte qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils passent même leurs vacances ensemble, avec l'espoir que si ces enfants fraternisent à 8, à 9, 10 ans, ils ne se tapent pas dessus à 12.
Et demain, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, se rend justement dans l'Essonne pour faire un point sur la situation et sur ses nouvelles idées.
Merci Justin Morin pour ce dossier complet, donc aux côtés des policiers qui luttent contre les violences urbaines.
Incroyable d'être à bord avec les policiers à bord de cet avion. Bien sûr, vous retrouvez ce dossier complet en ligne sur europe1.fr, en ligne et en images.
Et on rappelle donc cette nouvelle rixe hier à Champigny-sur-Marne qui a fait 2 blessés graves, 2 garçons de 14 et 15 ans.
Sur le front de l'épidémie de Covid-19, il y a comme un air de déjà-vu dans les hôpitaux franciliens.
Les services de réanimation sont presque saturés. 40% des opérations les moins urgentes doivent être déprogrammées. Sur l'ensemble de la France, le nombre de patients en réanimation est à un niveau jamais vu depuis le mois de novembre. Pendant ce temps, en Italie, c'est la barre des 100 000 morts qui vient d'être franchie. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour.
Vous êtes à Rome pour Europe 1. Plusieurs régions avaient autorisé il y a un mois, on s'en souvient, la réouverture des restaurants, des musées sous certaines conditions. Et aujourd'hui, la situation sanitaire se dégrade à nouveau.
Et oui, les nouveaux cas de Covid augmentent ici de 30% par semaine en moyenne et dans les hôpitaux. Les soins intensifs recommencent à être saturés dans la moitié des régions, en particulier dans le nord du pays, et ce, malgré une année entière de restrictions, de confinement partiel ou strict. Certains parlent déjà de troisième vague, à une situation qui se dégrade vite et qui alarme le nouveau président du Conseil, Mario Draghi. Il s'est adressé aux Italiens.
Le 10 mars, il y a un an, l'Italie entrait en confinement. Parmi nous, un Italien sur 20 a été contaminé. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un an plus tard, on aurait dû affronter la même crise et que le bilan officiel des victimes aurait atteint ce terrible seuil de 100 000 morts.
Et résultat, le gouvernement envisage un nouveau tour de vis pour toute l'Italie avec un confinement qui serait imposé le week-end, le couvre-feu national à 22h anticipé à 19 ou 20h, le durcissement pourrait intervenir dès vendredi prochain. Quant aux écoles, elles ferment ici à tour de bras sur le territoire à cause du variant anglais qui touche particulièrement les jeunes Italiens. D'ici la fin de la semaine, au total, eh bien 90% des écoliers devraient suivre les cours à distance.
Merci Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 en Italie.
Il y a aujourd'hui des villes en Europe où un membre du gouvernement français ne peut pas se rendre librement. Ça se passe en Pologne et Europe 1 est sur place.
Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, voulait se rendre dans une de ces zones officiellement hostiles aux personnes homosexuelles. Il y en a plusieurs dizaines en Pologne. Mais Clément Beaune, lui-même ouvertement homosexuel, a dû renoncer à cette visite officiellement pour des raisons sanitaires. Mais selon les informations d'Europe 1, sa sécurité physique n'était pas assurée. Ses réactions au micro de Jean-Rémy Baudot.
Ça aurait été facile de ne pas venir, de claquer la porte et d'éviter de l'expliquer publiquement les choses. Il y a une discussion avec les autorités polonaises, un blocage. Je n'ai pas cédé sur le fond et je continuerai ce combat. Et je n'ai pas non plus rompu le dialogue. Pendant très longtemps, on n'a pas parlé de ces sujets avec les Polonais. J'en parle, Prendre la République en parle. Et en même temps, l'attitude qui consiste à se tourner le dos, qui a été aussi une pratique parfois française à l'égard de beaucoup de pays européens, en disant c'est trop compliqué, on a trop de désaccords, ça n'est pas non plus notre approche.
Clément Beaune en Pologne au micro de Jean-Rémy Baudot.
À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, Marine Le Pen tente d'investir le champ de l'écologie.
Un exercice plutôt acrobatique pour quelqu'un qui remettait en cause il y a quelques années encore le rôle de l'activité humaine dans le réchauffement climatique. Et pourtant, Louis Dragnel, alors que l'Assemblée nationale examine le projet de loi climat du gouvernement, Marine Le Pen s'apprête, elle, à présenter son contre-projet de référendum sur le sujet.
Oui, depuis la publication de ces sondages, la présidente du Rassemblement national confie que pour la première fois, et c'est tout un symbole, les milieux économiques et financiers commencent à venir à elle, tout comme des hauts cadres de sociétés du CAC 40. Ils ne se pincent plus le nez, ils prennent rendez-vous avec elle. Du coup, Marine Le Pen a moins de complexes et s'aventure sur des terrains sur lesquels elle n'est pas forcément à l'aise, comme l'écologie, en essayant de montrer un visage de crédibilité et de mesure de normalisation. Donc, c'est cette nouvelle assurance qui la pousse aujourd'hui à faire 15 propositions sur l'environnement sur lesquelles Marine Le Pen aimerait que les Français s'expriment par référendum. Pour ou contre l'étiquetage détaillé pour les produits alimentaires, pour ou contre le renforcement du nucléaire, pour ou contre un moratoire sur les constructions d'éoliennes. Bref, autant de questions qui resteront sans réponse, puisqu'elles n'ont aucune chance de passer, mais qui permettent à Marine Le Pen de continuer à exister politiquement en poussant ses futurs rivaux à la présidentielle à commenter et à réagir à ce qu'elle dit, et espérer ainsi rester au centre du jeu médiatique.
Merci Louis Dragnel.
Dans un instant, nous vous emmenons à Bayeux, la restauration de la plus célèbre tapisserie de France. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. Rémi Bostaron.
Après 5 jours d'affrontement et au moins 5 morts dans les rues de Dakar, le principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, a finalement été libéré. Mais la tension reste vive dans les rues de la capitale et le président Macky Sall est sorti de son silence hier soir.
J'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire.
L'appel au calme lancé donc par le président sénégalais Macky Sall est contrebalancé immédiatement par l'opposant Ousmane Sonko devant ses partisans.
Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui, le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Macky Sall à la manifestation. Le peuple l'a repris de force. Il ne faut pas qu'on perde ce droit.
l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui n'appelle pas pour autant, dit-il, au renversement du pouvoir par la force.
La tapisserie de Bayeux est fatiguée. Alors il faut dire que ça fait bientôt un millénaire qu'elle raconte. Sur 70 mètres, la conquête du trône d'Angleterre par le Normand Guillaume le Conquérant.
Aujourd'hui, elle présente assez logiquement des signes de fragilité et de dégradation. Elle va donc passer entre tes mains expertes pendant 2 ans, début de ses opérations en 2024. Mais l'ordre d'Autriche s'est déjà rendu sur place à Bayeux à la rencontre de ceux qui veillent sur le vénérable document.
C'est une œuvre qui, en fait, porte le poids de son passé.
Une légère lumière éclaire la tapisserie. Chaque millimètre a été étudié au microscope. Résultat, 24 000 taches, des fils trop tendus qui s'abîment, des trous dans la toile lorsqu'elle a été accrochée avec des clous par le passé. C'est tout cela qu'il faut protéger et restaurer, dit Mathilde Labattu, conservatrice à la direction des affaires culturelles en Normandie.
C'est privilégier en fait l'intervention la plus minimale possible, défaire la doublure qui date du XVIIIe siècle, qui crée aussi des tensions.
Les broderies montrent les guerriers au combat, les chevaux qui se cabrent, un banquet où des hommes font griller de la viande. Mais 1000 ans plus tard, au milieu des dessins et des mots inscrits en latin, cette toile n'a pas encore livré tous ses secrets, dit Antoine Vernet, conservateur en chef des musées de Bayeux.
Un certain nombre de personnages restent énigmatiques. Des noms figurent sur cette œuvre et on a encore parfois bien du mal à identifier qui est le personnage nommé qui est représenté sur l'œuvre.
Une tapisserie magistrale que des brodeurs à travers le monde, du Canada à la Finlande, tentent aujourd'hui de reproduire à l'identique. À Bayeux, l'or d'Autriche Europe 1.
Et pour ceux qui n'auraient pas l'idée de reproduire chez eux la tapisserie de Bayeux, sachez que vous pouvez l'admirer à tout moment virtuellement sur le site internet bayeuxmuseum.com.
Merci Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1.